voudrais ce matin vous raconter l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre un garçon et un renard. Le garçon est ébloui, fasciné. Il est tombé dessus par hasard au détour d'un sentier. Le garçon s'approche doucement, tout doucement, la main tendue et le cœur en joie. Il voudrait en faire son ami, son frère, son confident. Il voudrait le connaître, tout simplement. Mais le renard prend peur et s'enfuit en courant. Cette peur, c'est sa blessure d'enfant. Qu'a-t-il donc fait de mal? Il n'était que curiosité, ouverture, amour peut-être. Cette peur, il ne la comprend pas. Il la trouve injuste, elle le blesse en plein cœur. Et puis peu à peu, il comprend. La manière qu'ont les hommes d'habiter le monde, ce que les hommes font au monde, à la nature, aux autres vivants, il comprend que le renard a raison d'avoir peur. Cette peur est sa blessure, et du fond de sa blessure, il va se faire une promesse. La route sera longue peut-être, ça prendra du temps peut-être, mais il les cherchera. Il les cherchera et il les trouvera. Ces endroits inexplorés, ces contrées sauvages et reculées, ces plaines si vastes que les animaux n'y sont pas dérangés par les hommes. Là-bas, dans ces mondes immenses et silencieux, il sera pour les animaux qu'il rencontrera la chose la plus étrange qu'ils aient jamais vue, mais ils n'auront pas l'inélégance de le lui faire sentir. Et n'ayant jamais rencontré d'humains, ils n'auront même pas le réflexe d'en être effrayés. Là-bas, au pôle sud, au Galapagos ou ailleurs, là-bas, c'est en tout cas la promesse qu'il se fait, il pourra habiter le monde, être au monde enfin vraiment, dans l'amitié des animaux et des éléments. Là-bas, il contemplera la beauté folle du monde, ou plutôt peut-être que de contempler, car contempler c'est encore être devant, dans une position d'extériorité. Il fera partie de cette beauté du monde. Il se fondra en elle-même jusqu'à, peut-être, y disparaître. Alors il se souviendra de ce renard rencontré enfant et il lui dira « Tu vois, tu n'avais pas à avoir peur. Je suis ton ami et nos destins sont liés, comme ceux de tous les vivants sur cette terre. » Ou alors il n'y arrivera pas, les mots ne sortiront pas de sa gorge et il aura envie de lui demander pardon. Pour en parler ce matin, de ce que c'est qu'être au monde, être tellement saisi par son immensité et sa beauté qu'on se sent exister comme jamais, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui lui ressemble peut-être un peu à ce jeune garçon, un explorateur et un réalisateur de films documentaires, oscarisé en 2006 pour La Marche de l'Empereur, vu depuis par des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde, réalisateur également du Renard et de l'Enfant, Il était une forêt, La glace et le ciel, Luc Jacquet donc, puisque vous l'avez reconnu, Luc Jacquet dans le dernier film, Voyage au pôle Sud, une sublime expérience immersive et poétique, vient de sortir sur nos écrans. Luc Jacquet donc, qui nous a rejoint ce matin, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à cheminer aux abords de cette belle question, comment être vraiment au monde, comment habiter le monde.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Luc Jacquet.
Bonjour Monsieur de Bergerac.
Vous allez bien?
Très bien.
Vous m'appelez
Cyrano. Bravo pour l'entrée en matière.
Alors, ce renard, vous lui diriez quoi aujourd'hui?
Ben, vous l'avez dit avec tellement de brio et tellement de verve, comment repasser derrière? Je suis surpris de voir qu'à mon âge, à quel point on prend au sérieux les promesses qu'on nous a faites enfants. Moi, ça peut être les promesses que j'ai vues en feuilletant des encyclopédies sur les genoux de mon grand-père, où il feuilletait des pages comme ça, en me disant « ça c'est un machin, ça c'est un casoir, ça c'est un ornithorynque, moi j'en passe ». Et je crois que j'ai pris ça vachement au sérieux, en fait, je m'en étais pas aperçu. Mais en se faisant ce film, j'ai dit « mais ma vie tient à ça ». Parce que quelqu'un m'a donné la curiosité, l'envie de voir le monde, d'être au monde, avec ses yeux de la curiosité, du savoir, de la connaissance. Et c'est tellement important ça, quand on y pense, quoi.
C'est sûr, et dans votre film qui est sorti il y a quelques jours, donc Voyage au pôle Sud, vous revenez près de 30 ans après, je crois, sur ce pôle Sud que vous avez découvert une première fois. Alors c'est un film dur à décrire, j'ai pas envie de trop en dire d'ailleurs, parce que c'est une expérience vraiment folle, plus esthétique qu'autre chose, une expérience sonore, une expérience visuelle. Alors c'est en noir et blanc, c'est très lent, c'est très beau, parfois c'est presque de l'art abstrait. Parfois il y a soudain la chair qui fait irruption, notamment la chair de ces manchots empereurs. Et vous nous dites dans ce film, au fond, que nous avons besoin de ces paysages.
Alors ça, c'est vraiment un truc qui me travaille ces temps, c'est plaider la cause de cette chose inutile, un peu utopique, mais que sont les paysages, puisque c'est peut-être maintenant qu'on les voit disparaître, cette fameuse solastalgie, hein, ce néologisme.
Ouais. Ça veut dire quoi?
La nostalgie des paysages qui disparaissent, oui, cette nostalgie des choses qu'on a connues et qui sont liées à ces forces de la nature qu'on est en train de démousser assez fortement, quoi. Et j'ai l'impression que ce retour au beau, ce retour à l'émerveillement, qui est quand même assez malmené aujourd'hui, c'est pas d'actualité, puis surtout ça ne rapporte pas d'argent les paysages, sauf si on peut en faire un peu de tourisme. Mais je crois qu'il faut revenir à ça pour se réémerveiller. Le réémerveillement, pour moi, est peut-être le point de départ de, j'allais dire un nouveau contrat, je m'entends dire ça, mais en tout cas une réconciliation avec la nature.
Alors vous, vous avez été quand même plutôt activiste par le passé, vous avez fait ce film « La glace et le ciel » avec un climatologue, on sait que cette banquise est en train de fondre, on sait que ce réchauffement menace notamment la survie des manchots empereurs que vous filmez à nouveau dans ce film, mais là, ce qui est troublant, c'est que vous prenez un peu de distance par rapport à cette posture, en nous montrant le beau. Mais du coup, je trouve qu'il y a deux façons de le recevoir. Soit on se dit, on va tout faire pour le sauver, soit on se dit, c'est mort, mais on va en profiter dans le dernier éclat avant la disparition. Et finalement, pourquoi pas? Il y a presque, dans ce cas, une lumière testamentaire.
Moi, j'ai pas trop envie d'aller sur ce côté « je profite parce que c'est fini ». J'ai plutôt l'impression de devoir ou d'avoir envie de militer pour quelque chose qu'on peut transmettre. Et de redonner envie aussi à des gens qui peuvent être très anxieux, très... Ouais. Parce que si vous faites un pas de côté, vous sortez de votre bulle d'éco-anxiété, je dis pas qu'elle est pas justifiée, je la partage. Vous allez dans la nature, d'un seul coup, tout va mieux. Tout va bien, ouais. Parce que la nature continue à suivre son rythme, et de toute façon, la nature avec un grand N, si on peut aller là, elle va continuer à évoluer, elle se passera très bien de nous, et vous apercevez que finalement, tout ça n'est qu'un problème entre les humains et les humains.
Tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis évidemment d'accord avec vous, je sais que vous voulez nous sensibiliser à cette beauté du monde pour qu'on essaye de le préserver, évidemment, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'expérience esthétique, c'est un film très esthétique, c'est dur à décrire, mais c'est sublime. On entend les craquements, vos pas dans la neige, et puis après on a les pattes des manchots dans cette même neige. Tout est très très troublant, au fond. Par rapport à l'expérience esthétique, on a parfois l'impression qu'il y a une lumière particulière, parce que justement, les choses ne sont pas éternelles. Et c'est peut-être beau comme ça aussi.
Moi, j'ai l'impression... c'est vrai que j'ai l'impression que ça faisait 30 ans que je le préparais, ce film, parce que c'est un peu le sentiment d'avoir tamisé des émotions, des sentiments, etc. Et en fait, ce que j'ai cherché à faire passer, c'est plus des choses que je ressentais que des choses que je voyais ou que j'entendais directement. Donc c'est presque une réinterprétation avec ce langage qui est le langage du cinéma, qui est le langage de l'art, pour passer une émotion plutôt que de la décrire.
C'est ça qui est très beau, ouais. C'est une expérience immersive, on pourrait dire. Et on est à l'intérieur de vous, au fond. On sent ce que vous ressentez. Et puis aussi cette énigme, pourquoi vous y retournez? Comme s'il y avait une addiction par rapport à cette Antarctique, à ce continent blanc, à ce pôle sud. Et d'ailleurs, pourquoi vous y retournez à chaque fois?
Cette addiction, elle est manifeste. Elle est chez toutes les personnes qui, je crois, ont posé les pieds un jour là-bas. Charcot a des mots très justes, les grands explorateurs ont déjà des mots très justes. Et pour décrire ça, mais on arrive toujours à un stade où on se dit, on est un peu à court d'arguments, on est un peu... Ouais. Mais l'addiction, elle est manifeste. Ça, c'est une chose, et c'est une chose inexplicable, parce qu'elle est paradoxale. Ça fait mal, c'est loin, ça nous éloigne, ça peut être dangereux, très dangereux. Et pourtant, on y retourne. Il n'y a rien, objectivement, pas grand-chose.
Il y a quand même
quelques vivants. Si ce n'est la beauté, si ce n'est les grands espaces, si ce n'est l'affrontement avec les éléments déchaînés, si ce n'est les animaux, excusez du peu. Et si ce n'est la qualité des relations entre les gens quand on est là-bas.
Il y a des scènes très très belles où vous êtes au milieu de ces manchots empereurs et puis ils vous accueillent, enfin en tout cas ils vous laissent être là, vous êtes tout près d'eux, presque on a l'impression de... On a peur un peu parfois, on se dit d'ailleurs s'ils se mettent à péter un plomb, s'ils vous sautent dessus. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là?
C'est difficile à dire. Peut-être que s'il fallait aller très vite, je dirais de la paix. Vraiment une espèce de sentiment de paix, comme ça, de... on peut tomber les armes, on peut tomber... Parce qu'ils sont là, autour de nous, ils sont venus parce qu'ils avaient bien envie, ils repartent parce qu'ils ont bien envie, vous êtes complètement passif par rapport à ça, si ce n'est que, vous avez le cœur battant parce qu'ils sont... Ils vous ont admis, et ça, c'est vrai que dans cette manière d'habiter le monde, ça, c'est une expérience qui est super forte.
Parce que c'est le sujet de l'émission, comment habiter le monde. On a l'impression qu'une des réponses que vous donnez, c'est on habite le monde, nous les humains, quand on rencontre autre chose que nous. c'est-à-dire la nature sauvage, c'est-à-dire les animaux. Il y a une phrase comme ça dans mon film, dans votre film, pardon. Rappelez-moi la phrase exacte où vous dites il est des rencontres, certaines rencontres, après lesquelles on reste à jamais troublé.
Ouais, c'est vrai qu'on peut plus vivre en paix. La qualité, la force de cette rencontre-là, ça vous emmène tellement loin, je crois, dans le ressenti, que c'est comme si vous aviez envie de vous en renourrir régulièrement. C'est inoubliable, et comme il n'y a que très peu d'endroits sur cette planète où on peut vivre ça, c'est vrai que c'est ce côté paradoxal, vous avez envie de retrouver ça, comme tous les grands moments de paix, tous les grands moments de plénitude, je crois.
Et justement, vous diriez plutôt que dans cet être au monde, vous êtes devant la beauté ou dedans ?
Les deux. Hein. Vraiment, désolé pour cette réponse qui n'en est pas une.
Non, mais ça me va.
Mais je crois que c'est les deux.
Ouais. Il y avait la réponse normande, il y a la réponse de jurassien, parce que je précise que vous avez grandi dans le Jura.
C'est ça.
Autre piste, peut-être, sur cet être au monde, c'est d'être confronté à la nécessité de la survie. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que nous, urbains, on n'a plus l'impression d'habiter le monde. C'est qu'en fait, on sait plus ce que c'est, enfin, en tout cas, pour nous, civilisés, privilégiés, on sait plus ce que c'est que survivre. Il y a des scènes dingues où on voit ce que c'est que ces animaux dans le froid, notamment ces manchots. On a l'impression que tout est lutte pour la survie et que c'est ça, au fond, être au monde.
C'est le cas, mais c'est surtout une survie qui est dépouillée de tout. C'est-à-dire que comme les êtres vivants sont extrêmement peu nombreux, comme les enjeux sont très clairs, ne pas geler sur place, survivre à la tempête, etc., tout est simplifié. C'est beaucoup plus complexe quand vous allez dans la forêt tropicale ou dans une... peu importe quel que soit le milieu. Et du coup, les choses deviennent beaucoup plus, incarnées, symboliques, beaucoup plus évidentes. Et vous avez ce sentiment-là.
Alors on va écouter un extrait du film pour bien se rendre compte de votre voix, de cette espèce de tessiture et de ce voyage que vous proposez.
Tu m'as demandé sur le quai pourquoi je repartais là-bas. J'ai vu dans tes yeux que ma réponse ne t'avait pas convaincu. C'est si intime. Pour atteindre le continent austral, la Terra Incognita, il y a 4 portes. C'est celle de l'Amérique du Sud que je préfère. C'est le pays du vent. J'aime ce vent. J'aime sa brutalité. Toute cette démesure fait vibrer de vieilles cordes en moi. L'appel de l'inconnu.
Alors, Luc Jacquier, l'appel de l'inconnu, vous repartez toujours vers le pôle sud. Vous laissez votre femme et vos enfants. Je crois que là, cela dit, votre fille est venue avec vous, c'est ça ?
Oui, enfin, sur un des voyages.
Sur un des voyages. Et il y a cette... dans le film, on voit, avant d'arriver, on voit le voyage, qui est très long. Et c'est très intéressant, vous refaites le chemin par le détroit de Magellan, les 50 rugissants, tout ça. Et c'est presque aussi important que d'y arriver, j'ai l'impression, de nous montrer ce chemin.
Ah c'est vrai que c'est un film de voyage. C'est vraiment fait pour, et c'est aussi c'est cette progression qu'on fait quand on part des mondes connus, en l'occurrence de la Patagonie, pour aller jusqu'en Antarctique, et comment vous allez vous dépouiller au fur et à mesure, tout comme les paysages autour de vous d'ailleurs, pour aller plus qu'à l'essentiel, c'est-à-dire cette espèce d'immensité blanche que vous trouvez au pôle sud, à perte de vue, qui finalement finit par vous étourdir. Mais c'est un film de voyage. Moi, j'ai eu envie d'embarquer les gens avec moi pour qu'ils puissent faire le voyage jusqu'au pôle sud.
Ce que vous proposez, c'est une expérience dans laquelle le rapport au temps change et dans laquelle le rapport au bruit change. À un moment, on a l'impression d'entendre le temps et d'entendre le silence.
Il y a effectivement du silence, parce que le silence prend une place énorme là-bas. Il y a un moment où vous êtes même encombré par vos propres bruits. Quand vous êtes sur la banquise, il n'y a rien du tout, pour peu qu'il n'y ait plus de vent, ce qui est assez rare malgré tout. Mais c'est une expérience assez déroutante, d'un seul coup, ce très grand silence.
Qu'est-ce qui distingue le pôle sud du pôle nord ? Ça peut paraître un peu bête comme question, mais je crois que c'est une vraie question en fait.
L'Antarctique est un continent, donc un socle rocheux, qui est recouvert d'une épaisse couche de glace, 1000, 2000, 3000 mètres, alors que le pôle nord c'est de la banquise, c'est de la glace de mer. C'est un océan recouvert de glace de mer, et on est en train de dire justement que peut-être un jour qu'il sera libre de glace.
Alors que le pôle sud, c'est un continent et un très vaste continent.
C'est un très vaste continent. Alors là, j'ai pas les chiffres, ça c'est une question piège, mais c'est grand, 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 grand.
On a l'impression que vous retrouvez là-bas une manière d'être au monde où vous disparaissez un petit peu. Ça m'a un peu fait penser ce grand blanc au grand bleu. Vous savez, le film de Luc Besson, avec aussi quand même la même pointe d'inquiétude. Est-ce que, quelque part, on va pas être avalé ? Dans le grand bleu, d'ailleurs, ça a été beaucoup reproché à Luc Besson à l'époque, on lui reprochait l'idée que c'était presque nihiliste, que cette beauté nous attirait tellement qu'elle pouvait, au fond, nous avaler, quoi, nous emporter. Il y a un peu ça, quand même, là, dans ce grand blanc aussi, je trouve.
Ah ben, complètement. Oui, complètement. C'est marrant ce parallèle avec Le Grand Bleu, qui pour moi est un film d'adolescence, que j'avais, enfin ça avait été un choc incroyable. Et c'est, j'étais pas allé là, mais c'est très pertinent.
Et c'est par rapport à vos proches, c'est pas un peu douloureux pour eux de vous voir repartir à chaque fois ? C'est quand même dangereux comme expédition.
Ouais, c'est relativement dangereux. Faut pas se raconter d'histoire. On n'est plus à l'époque des pionniers, on n'est plus à l'époque de la marine à voile. Là, on est quand même sur des logistiques d'État qui sont très, très sûres quand on va à la station du Mont-d'Urville. On prend pas énormément de risques, quand même.
D'accord. Donc, parce qu'on vous voit souvent à l'écran plutôt tout seul, en train de marcher, de vous laisser avaler par le blanc. Je vous propose d'écouter Sylvain Tesson, qui parle aussi très bien à sa manière de ce grand blanc.
Je suis arrivé en février dans cette cabane et les choses n'étaient pas très engageantes. Il faisait moins 30 degrés, la neige recouvrait les bois, la glace du lac craquait et je me disais mais en fin de compte pourquoi est-ce que je m'inflige ces choses-là ? Il me semble que quand on vit environné de froid, de silence et de solitude, on est dans quelque chose qui a à voir avec le paradis ou en tout cas avec la rareté, ce qui est peut-être un synonyme, puisque dans un monde de plus en plus bruyant, de plus en plus peuplé, de plus en plus chaud, il semble que ces trois états-là deviennent des produits de luxe.
Sylvain Tesson, donc alors, il n'est pas en Antarctique, mais il est en Sibérie, je crois. Qu'est-ce que ça, c'est un luxe, au fond, de retrouver cette solitude, ce silence ?
Bah, je crois, oui, dans ce monde-là, à condition d'aimer, évidemment, à condition d'aimer ça, mais ouais, c'est un privilège de pouvoir faire ce pas de côté, d'avoir ce sentiment un peu de recul sur le monde, sur la frénésie du temps qui passe. C'est une position de spirituelle qu'ont été chercher les grands penseurs, les grands prophètes. Ça vous rend un peu plus grand que d'habitude quand vous êtes dans des paysages comme ça.
Un peu plus grand et aussi un peu plus petit, non ?
Oui, mais c'est cette confrontation-là, c'est vraiment un jeu d'interrogation de vous-même par rapport à votre propre fragilité, votre propre mortalité. C'est vrai que quand vous passez à côté d'une crevasse, vous dites, bah, tiens, à 20 cm près, je disparaissais de la surface de cette planète. Quand vous êtes pris dans un blizzard, c'est à peu près le même sentiment. Et le fait de surmonter ça, finalement, bah, ça fait du bien. Ça rend plus vivant, en tout cas. Peut-être vous appréciez mieux le privilège d'être vivant quand vous fréquentez ce genre d'endroit.
Il y a cette idée que peut-être être au monde, c'est sentir le simple fait d'exister comme miraculeux.
Ah mais c'est totalement miraculeux. C'est totalement miraculeux, et quand vous fréquentez les empereurs, que vous les voyez disparaître, pris par le froid, mourant de faim, etc., dans quelque chose qui n'est finalement pas dramatique, puisque c'est ce qu'on appelle la mort blanche, d'un seul coup, cette confrontation permanente avec l'image de la mort telle qu'elle s'exerce là-bas, c'est une expérience très très perturbante.
Comment ça n'est pas dramatique, la mort blanche ?
Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de... C'est des flammes, un poussin de manchot empereur qui meurt de froid, il tombe, et c'est fini.
Ouais.
Et c'est à la fois tout ça et que ça. C'est très très perturbant comme sentiment, parce que ça arrive en plein hiver, ça arrive des dizaines de fois par jour.
Votre film propose, je trouve, une expérience à la fois esthétique et métaphysique. C'est une vraie méditation sur ce que c'est qu'être au monde, ce que c'est que marcher sur le monde. Et il y a des scènes très belles où on voit vos pieds dans la neige qui font du bruit en s'enfonçant. On comprend d'ailleurs que la survie dépend de la neige, en fait. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est molle? Est-ce que c'est de la glace? Est-ce qu'elle va se casser ou pas? Et puis il y a des scènes, je pense que c'est pas un hasard de montage. Alors je précise quand même qu'il y avait 200 heures de rush, hein, et qu'il reste une heure et demie de film. Et il y a des scènes où on voit ensuite les pattes de ces manchots empereurs. Et ça fait penser à vos pieds.
C'est un point commun, c'est-à-dire que l'un et l'autre, on est obligé d'arpenter cette banquise. Enfin, nous, on n'est pas obligé d'ailleurs, mais eux sont vraiment obligés. Et c'est, moi, au-delà de la patte, c'est la notion d'empreinte,
c'est ce qui
reste derrière.
Ouais.
Et ce qui est d'assez troublant, c'est de voir que nos empreintes sont très vite brouillées, qu'elles passent très vite, à la fois physiquement et métaphoriquement. Ça rappelle aussi l'empreinte du premier pas de l'homme sur la Lune. Et là encore, qui sur la Lune n'a probablement pas été brouillée, mais quand vous êtes en Antarctique, vos empreintes ne subsistent pas. C'est assez impressionnant.
Et d'ailleurs, il ne reste pas tellement plus le pas de l'homme que la patte du manchot.
Oui, parce qu'en plus, quand on est sur la glace de mer, sur la banquise, elle se casse tous les ans. Donc, en plus, vous disparaissez. Enfin, toute trace disparaît.
Ouais, ça fond.
C'est une leçon qui est assez, une leçon de modestie en tout cas, qui est assez efficace, quoi.
Eh bien, écoutez, on va méditer cette leçon d'humilité et cette expérience métaphysique en écoutant Zao de Sagazan.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. À sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence pour de l'inspiration. Je deviens bête, tout devient dense, mais jamais.
C'était Aspiration de Zao de Sagazan sur France Inter.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Luc Jacquet, c'est un éblouissement, mais moins encore que son film dingue, Voyage au pôle Sud, sorti le 20 décembre dernier au cinéma. Alors, comment résumer ce film ? J'ai dit expérience immersive, expérience esthétique, expérience métaphysique. C'est tout ça à la fois. C'est aussi une performance presque de minimalisme. Je crois savoir que vous aimez aussi les haïkus japonais. Et parfois, on a l'impression que vous cherchez l'épure comme ça, l'épure de la forme. On vous voit parfois marcher dans le blizzard, on voit des manchots disparaître dans le blizzard. On a l'impression qu'il faut arriver à, comme à la trace qui indique qu'on est vivant, mais qui l'indique de la façon la plus pure possible.
Ben c'est vrai que c'est vraiment moi cette dynamique de... Vous avez cité ces auteurs des haïkus japonais, donc ces petits poèmes très courts en trois vers, où ces artistes étaient capables, en aussi peu de mots, de créer un éblouissement, une sensation, une émotion. Et ça, je crois que c'est un truc qui m'inspire beaucoup, essayer d'aller vers la réduction le plus possible pour s'attacher à ce qui est essentiel. Il y a une idée de quête là-dedans, c'est la quête du beau, évidemment, c'est ça qu'on cherche. Et effectivement, je crois que j'aime pas trop les artifices par nature.
D'ailleurs, quand on pense aux 200 heures de rush pour arriver à un film d'1h28, c'est presque un haïku.
Oui, non, ça, c'est plutôt la dose syndicale, quoi.
Ouais, c'est habituel pour vous.
Ouais. Ouais.
Et donc, il y a un gros travail de montage, il y a un énorme travail de son dont il faut qu'on parle quand même. Le son est une matière en elle-même.
Hein. Ouais, on a vraiment travaillé de façon très singulière sur ce film, dans le sens où on a tout fait avancer de concert. En général, vous faites un film, vous montez l'image, puis le son, puis vous composez la musique, vous mixez tout ça, et ça fait quelque chose. Là, on a tout fait à la fois, c'est-à-dire qu'on a monté l'image, on a attendu que le son monte, on a attendu que la musique soit composée, on s'est écouté, on a rechangé l'image pour intégrer les trouvailles qu'on avait. Et du coup, tout a été conçu pour être harmonieux et ne finalement... Évidemment, il y a eu un travail de mixage, mais tout était là d'emblée. Et c'est vraiment cette conversation entre ces trois talents, la composition de la musique, le montage de l'image et le montage du son, qui donne à ce film, effectivement, cette singularité.
Avec des partis pris esthétiques très forts, notamment on sait que les couleurs sont magnifiques, il y a du bleu, du violet. Là, c'est en noir et blanc, et c'est sublimement réussi. Mais pourquoi noir et blanc ?
Pour aller au bout de la métaphore, la dissolution vers le blanc. Quand vous êtes au pôle sud, on en a déjà amplement parlé. On part de la Patagonie, tout est encore vivant, il y a encore des végétaux, il y a encore des odeurs, des animaux, des routes, des gens. Et petit à petit, on va se dépouiller de tout ça et on va aller. Donc, la métaphore, il fallait l'assumer pour de vrai, avec des vrais partis pris. Le cinéma, pour moi, c'est des partis pris, c'est pas de l'eau tiède. Mais aussi pour aller cette esthétique moins immédiate que la description. Aujourd'hui, on a tellement d'images en couleur.
Bien sûr.
Moi, j'avais envie d'amener les gens à regarder un peu différemment et aller travailler cette esthétique du noir et blanc où la lumière devient relief, la lumière devient une composition à part entière de l'image. Et ça, c'est jubilatoire à travailler. C'est une beauté qui est saisissante.
Ouais, et puis on arrive à ça, mais sur le chemin, vous racontez bien le chemin au début. Notamment, vous avez cet effroi devant la forêt brûlée en Patagonie.
Ben, à l'autre bout de la métaphore, il y a effectivement le carbone de cette forêt brûlée, les hêtres de Magellan, qui sont pour moi des arbres absolument magnifiques, qui ont une forme très très étrange, très tourmentée. On est presque dans une forêt de contes. Et là, malheureusement, quelqu'un, pour faire brûler son papier de toilette, ça paraît complètement dérisoire, a fait brûler 10 000 hectares de cette forêt. Et c'est très troublant parce que c'est à la fois complètement désespérant, le rapport du geste est effectivement à pleurer, et pourtant il y a une esthétique qui se dégage de ça. C'est l'esthétique de Franz Kreisberg, ce fameux auteur brésilien qui faisait des sculptures avec des arbres brûlés, mais il y a un truc qui se passe qui est très très puissant, et effectivement pour moi c'était ce noir absolu qui est le noir de la fumée, avec toute la métaphore du carbone telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui était intéressante.
Votre travail m'a fait un peu penser à celui du photographe Sebastião Salgado, cette espèce de parti pris radical, parfois, de nous montrer la chair du monde, au fond. Et peut-être c'est ça aussi qui est métaphysique. Hein. L'être, il est là, devant nous, il y a rien derrière, au fond, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Et on voit aussi qu'un autre parti pris qui est de dire que peut-être on peut sensibiliser, non pas en angoissant les gens, mais par la beauté, en leur proposant un choc esthétique.
Ben, ça devient presque un manifeste. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment aujourd'hui d'être un peu à court d'arguments. Comment faire adhérer les gens, la société, à cette idée simple qu'il nous faut de l'air pur, de l'eau propre, de la nourriture saine, des espaces vitaux en bonne santé. Et comment... Enfin, moi, je crois que c'est de ça dont il s'agit. Donc peut-être que plutôt que d'être dans l'injonction, d'être un marchand d'angoisse, revenir peut-être à ce qui nous est commun à tous, c'est-à-dire cette capacité d'émerveillement.
Émerveillement et émotion, c'est ça qu'on peut pas, peut-être pas imaginer quand on voit pas le film. On est très ému. Parfois, c'est poignant. Vous retrouvez notamment cette colonie de manchots. À un moment, vous les aviez perdus, repérés sur le GPS, puis vous les trouviez pas. Et soudain, vous vous ouvrez à votre angoisse qui est que peut-être un jour ils seront plus là. Et alors, on comprend que, bah oui, ce jour est peut-être proche, que peut-être dans 50 ans, hein, si le réchauffement climatique continue, en fait, la banquise va fondre à un point tel que ces manchots empereurs qui vous accompagnent depuis si longtemps ou que vous accompagnez depuis si longtemps, en fait, vont disparaître. Quand même, c'est ça, le risque est là, quoi.
Mais moi, ça, c'est une idée insupportable, totalement insupportable. Parce que j'ai eu le sentiment de pouvoir en jouir, de pouvoir apprécier ça, et ne pas transmettre ça à nos descendants, à nos enfants, ça serait une fêlure abominable.
Et pourtant, le mois dernier, on a eu les chiffres du transport, du vol en avion. On n'a jamais autant pris l'avion de tous les temps que cette dernière année. Et pourtant, je pourrais multiplier les chiffres comme ça. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas, quoi. On n'arrive pas à réagir. Au fond, c'est stupéfiant. Et c'est ça aussi que vous constatez.
Mais moi, je prends l'avion comme tout le monde, enfin peut-être plus que tout le monde d'ailleurs. Donc, je suis aussi dans ce paradoxe-là. Pour faire mon métier, j'ai à me déplacer. Après, comment gérer ces choix qui ont été faits il y a quelques dizaines, enfin début du 20e, on est parti sur le tout thermique, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve coincé. J'avais presque envie de dire comme des cons dans notre culpabilité, ouais. puisque on utilise des outils dont on sait qu'ils sont mortifères aujourd'hui. Pourtant, on en a besoin pour l'exercice de notre métier, pour l'exercice de nos déplacements de tous les jours. Et comment on fait ? Et c'est ça qui est assez terrible, c'est de se sentir impuissant dans la capacité à faire muter des usages qui nous renvoient une image de nous-mêmes qui n'est pas du tout favorable et pour cause.
Alors je vous propose d'écouter Camille Etienne qui fait à peu près le même constat que vous, mais avec quelques petits accents différents.
On arrive pas sur le glacier, on arrive au pied du glacier. Et là, il nous dit, t'es né quand, Camille, déjà je dis en 98. Elle me dit, ah, c'est là. Quand t'es né, le glacier, il était là. On lève la tête et on voit les strass, on voit les couleurs des rochers qui ont marqué encore tout ce flanc de montagne et qui montrent que le glacier était non seulement très, très avancé, mais aussi, surtout, très haut et très épais. Et ça, on n'y pense pas souvent, mais c'était vraiment un monstre de glace, quoi. Et depuis ce fameux 98, on marche. On a marché bien 30 minutes avant d'arriver à l'endroit où était le glacier en ce moment. Et lui-même était ému et nous racontait que cette année, c'était la plus grosse fonte pour le glacier. Il avait perdu 300 mètres en un an. L'idée de voir ce monstre de glace, qui est quelque chose de très menaçant, de très fort, de très puissant. Et on voit la rapidité avec laquelle la fonte est là. On a vraiment l'impression de comprendre et de voir envie de crier au monde, c'est pas pour demain, c'est pas pour les générations futures. Ce qu'on vit est juste hyper urgent.
Alors Camille Etienne, elle parle de la fonte très rapide de ce monstre de glace. Elle dit on a envie de crier. Et pourtant, dans votre film, c'est ça le parti pris, vous ne criez pas. Vous avez l'air de dire en fait j'ai assez crié. On a assez crié, maintenant on va contempler, on va habiter, et peut-être que ça va produire une réaction.
Oui, enfin je me cache pas de dire l'effet que ça fait quand on arrive dans un endroit comme qui s'appelle la plateforme Larsen. On a débarqué là, il y avait des glaciers géants, effectivement ces fameux icebergs là qui partent, qu'on décrit, qui font des centaines de kilomètres carrés. Qui s'en vont, ça donne effectivement une idée de la puissance de l'homme aujourd'hui, mais moi, j'ai un sentiment d'impuissance par rapport à ça, qui est assez désagréable. Parce que l'évidence intellectuelle, l'évidence scientifique, elle est tellement là que je n'arrive pas à comprendre que l'être de raison que nous sommes censés être, n'arrivions pas à inverser le cours des choses. Et non pas pour retourner à l'âge de la pierre, comme certains aiment à le dire, mais au contraire, aller sur une société d'innovation, sur une société qui réinvente son futur avec ce qu'il sait faire de mieux. L'homme est magnifique quand il fait appel à sa technologie, à son savoir-faire. Et là, on est vraiment dans une impasse. Et du coup, c'est quoi le stimuli qui va nous faire sortir de l'impasse ?
C'est peut-être le choc par la beauté, le choc esthétique.
Bah parce que pour nous, c'est une évidence. Quand vous êtes dans des endroits comme ça, ça vous tombe dessus, c'est évident. Parce que c'est concret. Je pense aux gamins qui vivent à Shanghai ou à Mexico, ouais. dans les méga-cities. C'est quoi la nature pour eux ? C'est quoi leur rapport à la planète ? C'est un truc au mieux complètement abstrait. Au pire, ils s'en foutent parce qu'ils sont dans un monde qui n'a plus du tout accès à ça. Alors que nous, par ce rapport sensible direct qu'on a, c'est sûr que c'est très mobilisateur d'une certaine manière.
En fait, en retrouvant une manière d'être au monde, sensuelle, esthétique, on peut peut-être retrouver le désir de préserver ce monde parce qu'on l'habite. Mais si on le pense comme un terrain de consommation, comme des blocs en tant que promoteur immobilier à découper et à vendre, au fond, comme on ne se sent pas habitant du monde, on n'a même pas l'idée de pouvoir le préserver. Donc du coup, par votre film, en nous permettant de ressentir qu'au fond, nous habitons le monde, que ce monde est notre maison, que nous ne sommes pas devant mais dedans, ça peut quand même produire une sorte d'électrochoc.
J'espère, mais c'est aussi cette notion d'appartenance, c'est-à-dire que le fait qu'on est... Alors là, je vais me lancer dans un truc, dire que des choses... Il y a plein de peuples premiers pour qui, évidemment, la terre n'appartient à personne. Ouais. Nous, on l'a découpée en titre de propriété. Et du coup, vous allez défendre votre titre de propriété, après, c'est chez les autres. Vous allez pouvoir taper dedans, éventuellement, vous faire le plus d'argent possible. Alors qu'effectivement, c'est un bien commun, c'est un bien collectif. Et je pense que ça demande un changement de regard sur notre planète qui est effectivement très, très radical, pour le coup. Quoi.
Peut-être aussi, si on n'arrive pas à réagir, si en fait on est bloqué, c'est parce que le changement se fait tous les jours un petit peu, et que quelque part, on a une, c'est ce que les psys appellent une cécité au changement. C'est comme quand on a pris un gros coup de pelle, un jour on se dit, putain, j'ai 55 ans, et on voit qu'on a vieilli, mais en fait, on l'a pas vu venir parce que c'était tous les jours un petit peu. C'est peut-être pareil avec le réchauffement climatique.
Mais c'est extrêmement vrai. Enfin, je crois que beaucoup de gens cessaient à décrire tout ça. Moi, je vous donner un exemple extrêmement trivial. J'habite dans le Jura, vous l'avez mentionné. Il y a un arbre qui est extrêmement emblématique chez nous, qui est l'épicéa. Mmh. Les scientifiques nous avaient dit, voilà, le bouleversement climatique, ça va toucher des paysages qui vous sont communs. Aujourd'hui, quand vous allez dans le Jura, en l'occurrence, mais dans d'autres régions de moyenne montagne, vous avez au bord de la route des immenses tas d'arbres coupés, tout simplement parce que ces arbres sont en train de sécher. Et ça, c'est depuis 2 ou 3 ans chez nous. Et ça, c'est complètement, pour moi, c'est pathétique, puisque ça, c'est des arbres que moi, qui j'aime, qui font partie de mes repères, de mon enracinement dans cet endroit-là. Et là, ça va à une vitesse folle. Et là encore, c'est tout petit. C'est pas un majeur, c'est pas un déluge de feu. C'est des phénomènes très, très rampants, très petits, ouais. Jour après jour. Tiens, un arbre, ça met 15 jours à mourir. Un forestier vous dit, tiens, là, il commence à sécher. Dans 15 jours, il est mort. Quoi? Dans 15 jours, il est mort? Cet arbre, il a 120 ans? Ça fait quand même vachement bizarre.
Ouais, il y a une accélération de tout. Et il y a un philosophe allemand que j'aime bien, Hartmut Rosa, qui dit, vous savez, devant cette accélération de tout, des flux, des communications, du progrès technique, il y a une solution. C'est de retrouver de la résonance. C'est-à-dire le moment où notre qualité de relation, nos regards, notre empathie, notre rapport au monde se met à résonner. Je trouve que c'est exactement ce que vous proposez avec votre film « Voyage au pôle Sud » qui est sorti le 20 décembre dernier en salle. Vous proposez une magnifique expérience de résonance et pour ça, on a envie de vous dire merci. On va écouter un peu de musique et revenir à cette expérience immersive. C'était le sublime No Surprises de Radiohead.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Luc Jacquet, explorateur, réalisateur, scientifique bien sûr à l'origine, mais surtout devenu explorateur et réalisateur, notamment cet Oscar, il y a maintenant près de 15 ans, ou presque 20 ans, La Marche de l'Empereur. Mais là, nous vous recevons pour tout à fait autre chose. Enfin, pas tant que ça, Le Voyage au Pôle Sud. J'ai choisi, Luc Jacquet, de vous faire écouter Radiohead, parce que je trouve que ce qu'on en ressent en écoutant Radiohead, Enfin, en tout cas, ce morceau-là, pardon, c'est exactement ce que j'ai ressenti en voyant votre film. C'est-à-dire une expérience de résonance. Et ça m'amène à une autre hypothèse par rapport à la question de l'émission. C'est qu'est-ce qu'être au monde ? J'ai l'impression que être au monde, c'est toucher quelque chose d'un mystère. Alors qu'on pourrait se dire, bah non, être au monde, c'est comprendre ce qui nous arrive, analyser, etc. J'ai l'impression que non, nous ne sommes pas que des êtres rationnels. Vous proposez d'ailleurs une expérience pleine d'émotions. Est-ce que ça vous irait comme définition que nous ne pouvons habiter le monde qu'à la condition d'en saisir l'étrangeté ?
Ah, moi, j'aime beaucoup ça. Le fond de scientifique que je suis encore cohabite très bien avec le fait de ne pas tout savoir et d'accepter qu'il y a des pans de mystère, de choses qui nous échappent, qui se manifestent parfois de manière fugace comme ça, sans en faire de l'ésotérisme ou autre chose, mais c'est vachement bien, on sait pas tout. On est probablement mu par des forces qui nous dépassent totalement, qu'elles soient immenses ou toutes petites. Je pense, vous allez rigoler, au microbiote aujourd'hui, on découvre des trucs. Nous sommes finalement l'habitat de plein de créatures avec qui on est en symbiose. Ouais. Donc voilà, tous ces mystères que nous raconte la science tout doucement, c'est quelque chose de très intéressant au fond. Quoi.
Je voudrais oser une question presque naïve, mais finalement aussi votre travail, hein, c'est de retrouver... un peu de naïveté, hein. Finalement, de l'étonnement, comme cet enfant étonné que le renard soit de lui effrayé, c'est ça que vous essayez de retrouver aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc je vais oser une question naïve comme ça. Luc Jacquier, dans ce grand blanc de l'Antarctique, immense, on a l'impression qu'il n'y a rien, quoi, parfois, que du vent, que de la glace, et en même temps, on sent la présence d'une force. D'ailleurs, vous aviez failli appeler le documentaire, enfin le film, Le Continent Magnétique. Alors, j'ai envie de poser une question simple, mais je vous demande d'y répondre vraiment, c'est ce que je dis souvent à mes élèves de lycée, n'ayez pas peur des grandes questions et essayez de les entendre résonner, justement. Alors, est-ce que vous sentez là-bas, dans cette nature, la présence d'autre chose que de la nature ?
Ben déjà, il n'y a pas rien, puisqu'il y a la lumière, et la lumière, elle est signifiante tout le temps. Ça, c'est quelque chose de surpuissant, quelque chose à la fois d'esthétique. Ouais. Mais évidemment, il y a l'aspiration à ce très grand que certains nomment Dieu, que certains nomment autrement, que certains... Moi, j'ai pas de certitude là-dessus. J'ai une espèce de tambouille catholico-animisto-scientifico quelque chose. Ouais. J'ai fait ma propre petite sauce avec ça. Mais oui, c'est sûr que ça vous aspire vers le haut, ça ouvre des perspectives, ça appelle à la grandeur aussi, ça appelle au dépassement de soi. Ça appelle aussi à essayer de cerner qui on est pour être au plus juste, pour être le plus aligné possible. Donc oui, il y a quelque chose. Mais ça, c'est l'appel du désert.
En tout cas, si c'est un dieu, il nous propose là-bas en Antarctique une immense séance de cryothérapie, car c'est quand même assez violent comme climat. D'ailleurs, cette violence, on a l'impression que ce que vous nous dites, c'est bon, oui, c'est violent, la nature est violente, la glace, le vent, le froid, mais c'est peut-être moins violent que ce que les hommes parfois font au monde.
Ah, mais ça, c'est évident. Moi, je me sens beaucoup plus en sécurité dans la violence de l'Antarctique que dans la violence humaine. Il m'est arrivé d'aller en forêt amazonienne, dans des endroits où il y avait des garimperos, des chercheurs d'or, où là, vous avez une espèce de violence à l'état pur, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour ressentir la violence à l'état pur aujourd'hui, quoi. Et pour moi, la violence humaine est la violence la plus effrayante et la moins gérable, d'une certaine manière, quoi.
Dans ce film, donc Voyage au pôle Sud, c'est vous la voix off. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, qu'on entend votre voix à ce point.
Oui. Oui.
Donc, on rentre dans votre intimité. Ce voyage est un voyage intérieur. Hein. Et vous dites notamment, j'avais 23 ans quand je suis venu ici pour la première fois, et maintenant mes cheveux sont gris. Si je vous demande entre les deux, qu'est-ce que la vie vous a appris, Luc Jacquier ?
Elle m'a d'abord été très. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu la chance d'aller dans les plus beaux endroits du monde. J'ai eu la chance de pouvoir satisfaire la curiosité que j'avais de ce monde, d'essayer de le comprendre, le passé. J'ai eu la chance de connaître le succès pour un artiste. Ouais. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça vous rassure, ça vous apaise d'une certaine manière. Donc la vie m'a donné ça. La vie m'a aussi amené des épreuves, comme tout un chacun, je dirais. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce moment de vie où on a envie de faire le point, où on commence à regarder un peu par derrière, sans oser trop regarder par devant, je me considère comme extraordinairement chanceux.
Alors justement, la vie vous a apporté le succès. Je vous propose d'en écouter une petite réminiscence.
C'est l'histoire d'un empereur qui a conquis Hollywood. Il y a quelques heures, le français Luc Jacquier, son film à petit budget, La Marche de l'Empereur, a remporté l'Oscar du meilleur documentaire étranger
March of the Penguins.
Pour une fois, la statuette dorée d'Oscar a un sérieux concurrent, le pingouin en peluche. Les Français se font remarquer à Hollywood. Meilleur documentaire étranger pour la marche de l'empereur. Déjà 16 millions de spectateurs dans le monde. Remerciements.
It means
ça veut dire merci en pingouin.
Ça, c'était une bonne idée.
Il fallait oser quand même.
J'adore. Mais alors, ce succès aurait pu vous tuer, hein. Il aurait pu vous enfermer. On connaît beaucoup de romanciers, de cinéastes qui ont eu un succès monumental et qui ont eu du mal à s'en remettre. C'est pas du tout votre cas. Et notamment, vous n'avez pas voulu répéter, au fond, la recette qui avait marché. Notamment, vous avez fait ce long métrage de fiction dès 2 ans après, donc Le Renard et l'Enfant, dans lequel vous revenez sur l'anecdote du début de l'émission, qui est, je crois, une anecdote réelle.
Oui, tout
et puis après, vous avez fait d'autres choses. C'était La Forêt des Pluies. Vous avez fait Il était une forêt, La Course à la Vie, La Glace et le Ciel. D'où ça vient cette capacité de renouvellement? Vous avez eu peur, quoi, d'être enfermé dans le même succès?
Non, moi j'ai eu la chance d'avoir, quand on a eu l'Oscar, d'avoir un film qui était déjà en pré-production, Le Renard et l'Enfant.
Ah oui.
Donc j'ai pas eu ce moment de vertige en me disant, oula, qu'est-ce que je vais faire après, quoi.
Ouais.
Moi, c'était déjà engagé. Le succès, c'est un truc très compliqué, c'est un truc qui fait tanguer la barque, évidemment, de plein de points de vue. Moi, encore une fois, heureusement que j'avais quelque chose de très concret.
Ouais.
Moi, je suis rentré des Oscars, genre le surlendemain, j'avais une équipe qui était prête à tourner. Et, bon, maintenant, on fait quoi et c'est comment? Et du coup, fallait reprendre les dés et se remettre en question depuis le début.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, ça aide à revenir très très vite sur Terre.
Ouais, très très joli film, d'ailleurs, que je recommande à tout le monde, surtout en cette période de Noël, si vous êtes avec vos enfants, hein, Le Renard et l'Enfant, sorti en 2007, un film que vous avez, je crois, écrit et réalisé.
Ouais.
Et dans lequel vous revenez sur cette expérience initiatique. Est-ce que vous pouvez nous la raconter aujourd'hui avec le recul? Il s'est passé quoi ce jour-là, dans cette rencontre avec ce renard?
Ben encore, anecdote infime. Hein. Moi, je vais chercher des champignons au printemps. Champignons extrêmement savoureux qui s'appelle le tricholome de la Saint-Georges, qui est une espèce de graal dans nos montagnes.
Comment il s'appelle?
Le tricholome de la Saint-Georges, ou mousseron de printemps.
C'est un champignon.
Petit champignon blanc, très très
jurassien,
savoureux.
Jurassien, donc.
Wow, il y en a de partout. Mais
d'accord.
Bon. Et donc, dans un endroit...
Comment
dont... Pardon?
On le cuisine comment?
Ah, à la poêle, délicieux.
D'accord.
Et, ouais. Et donc j'arrive dans une clairière comme ça et je vois un renard, me voit pas, et je m'approche. Et chaque pas était encore plus vertigineux parce que comment ça se fait qu'il s'en va pas, quoi? Et d'un seul coup, il a levé la tête, il m'a regardé, il y a eu une espèce d'intensité dans l'échange du regard. Je vous raconte ça, j'ai les images exactes dans la tête. Et il s'est barré.
Ouais.
Il est parti et j'ai dit, mais non, je veux pas ça, quoi. Là, on y était presque, entre guillemets, quoi.
Ouais.
Et c'est sûr que c'est un truc qui m'a beaucoup marqué enfant, parce que moi j'avais la chance de pouvoir me balader dans la montagne, mais c'est quelque chose de tenace. Mais il y avait aussi un peu l'ironie après la marche de l'empereur,
ouais,
de dire je peux aussi vous embarquer en faisant un film derrière chez moi.
C'est ça, ouais. Un vrai film pour le coup d'ailleurs, pas un film documentaire.
Absolument.
Et après, vous avez fait en 2015 La Glace et le Ciel, autour du glacier Claude Lorius, c'est ça?
Le glaciologue.
Glaciologue, pardon. Ouais. Et qui était l'un des premiers à avoir montré ce que ça allait devenir.
Moi, un grand, grand bonhomme, Claude Lorius. Moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, que je trouve injustement méconnu par rapport à l'impact scientifique qu'il a eu sur le XXe siècle et même encore aujourd'hui. Claude fore les glaces de l'Antarctique et découvre que les bulles d'air qui sont conservées à l'intérieur,
ouais,
sont des archives du climat. Et à partir de là, il est capable de les dater et nous dire, regardez, à partir du moment où l'homme commence par la révolution industrielle, à émettre du CO2 dans l'atmosphère,
ouais,
il est en train de modifier le climat de la Terre. On en parle toujours aujourd'hui, sauf que lui avait,
c'est ça,
décrit, compris, prévu.
Et donc le premier à avoir dit, et c'est ce que raconte votre documentaire, que c'est bien l'homme qui est responsable du réchauffement climatique, et non un cycle.
Que ceux qui ne veulent pas admettre ça aujourd'hui sont des gens qui sont dans le déni de la science, dans le déni des évidences. Après, c'est un autre problème.
Et racontez-nous plus précisément cette histoire. En fait, les bulles d'air sont emprisonnées, en fond, dans la glace, mais depuis combien de temps?
Elles
permettent de dater, d'archiver la civilisation.
Voilà, tout le génie de Claude Lorius, dont les débuts d'études étaient d'étudier les flocons de neige, en Antarctique en l'occurrence,
s'est
aperçu que les flocons tombaient par couches, et qu'entre les couches de flocons, il y avait de l'air. Et plus les couches allaient s'accumuler, plus cette neige allait devenir glace, l'air allait se concentrer dans des petites bulles, jusqu'à suivre le trajet de ces flocons vers les profondeurs, puisqu'il y a une espèce d'enfoncement comme ça. Donc si vous étiez capable de dater vos échantillons de glace en vous enfonçant vers les profondeurs, donc dans le temps, vous étiez capable de remonter dans le temps, et si vous étiez capable d'analyser les bulles d'air contenues dans la glace, vous aviez une porte ouverte aux archives du climat. C'est et lui a décrit ça.
C'est exactement comme quand on regarde le ciel étoilé et qu'on remonte en arrière, parfois sur des milliards d'années, là, avec la bulle d'air encapsulée dans la glace, on remonte en arrière.
Exactement.
Donc au fond, le passé est présent.
Ça, c'est vous qui le dites.
Bah, c'est vrai, non?
Ouais.
Est-ce que c'est pas ça, être au monde, d'ailleurs? Par rapport à la question de l'émission, c'est qu'est-ce qu'être au monde? Est-ce que c'est pas se sentir soudain habiter un temps et un espace beaucoup plus grand que nous?
Ben évidemment, mais ça c'est aussi ces fabuleux. On a un sentiment d'immobilité, alors qu'on est mu par des forces qui sont considérables. Les continents continuent à bouger à l'instant où je parle. Ouais. Nous sommes mus par des formes, par l'évolution en permanence. C'est-à-dire que nos enfants sont déjà plus comme nous et ils seront encore différents. Tout ça parce qu'ils sont soumis à une pression évolutive qui est une force majeure. Ouais. Donc l'apparence de l'immobilité, je pense que c'est une illusion, une utopie de l'être humain qui essaye de garder les choses dans sa possession. Mais en fait, nous ne sommes que flux.
Et c'est ce que raconte très bien votre film. Je vous ai proposé aussi un petit son, un extrait de Jim Harrison, lu par Guillaume Gallienne. Je crois que vous allez comprendre pourquoi.
Nager, pensait-il parfois, c'était peut-être comme danser dans l'eau. Nager sous les nénuphars en voyant leurs minces tiges vertes osciller sur son passage. Nager sous les branches mortes parmi les bancs de poissons-lunes et d'ouïes bleues. Nager à travers les massifs de roseaux en apercevant des tortues miniatures et des serpents d'eau qui ondulent. Nager dans des petits lacs, de grands lacs, dans le lac Michigan. Nager dans de modestes étangs de fermes, des torrents, des rivières, de vastes fleuves dont le courant puissant vous emportait si aisément. Nager nu et de nuit, lorsqu'à 19 ans on se sentait si seul qu'à chaque instant on croyait étouffé. Si seul après avoir quitté la maison familiale pour des raisons plus hormonales que rationnelles, des raisons liées au caractère abstrait de l'avenir et à la place incertaine que l'on occupe dans le monde. Une interrogation sans doute absurde et très répandue, mais qui n'en restait pas moins angoissante.
Pas mal, non ?
Entre Gallienne et Harrison, ça commence à faire beaucoup.
C'est un cadeau pour vous.
Ouais, c'est
je me suis dit, franchement, c'est un peu ce que vous montrez.
Ouais, ouais.
Nager nu la nuit dans quelque chose qui est à la fois une expérience familière et angoissante. Est-ce que c'est pas ça, au fond, être au monde?
Ben si, mais c'est vrai que moi je me suis beaucoup, enfin Harrison a beaucoup accompagné mes lectures. C'est cette interrogation. S'immerger dans un paysage, que ça soit dans de l'eau froide, ouais, ou peu importe, pour essayer de comprendre un peu qui on est. Et Jim m'avait fait ça de manière incroyable.
Ouais, s'immerger, rentrer dedans. Et c'est aussi votre histoire, parce que quand on est scientifique au début, même si évidemment la science c'est merveilleux, on est quand même souvent avec une blouse blanche en train d'observer quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Et toute votre histoire, c'est cette tentation de devenir, d'agir, quoi, de devenir explorateur. Depuis qu'on vous a proposé très jeune d'aller faire des images comme ça au pôle Sud, c'est aussi une manière de rentrer dans la beauté, de rentrer dans le monde et ne plus simplement l'observer. Eh bien, Luc Jacquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sous le soleil de Platon. C'était merveilleux, c'était un éblouissement. On a eu l'impression de sentir cette banquise, ce froid, cette énergie, ce fluide vibratoire. On n'a pas assez parlé de vibration et ce sera ma façon de vous remercier et de dresser pour nos auditeurs, comme je le fais chaque matin, le portrait de votre philosophie de la vie, celle qu'on a entendue ce matin. J'ai envie de dire une philosophie vibratoire. On a senti la glace craquer. On s'est demandé si dans cette énergie de la nature, il y avait quelque chose qui soit de l'esprit ou simplement de la nature. Je dirais que votre philosophie, elle hésite entre le minimalisme des haïkus japonais et la philosophie phénoménologique par laquelle on voit apparaître la chair du monde. Elle hésite aussi entre un esprit scientifique et un esprit de pur explorateur, un esprit aussi de pure contemplation. Et bien sûr, vous avez été aussi cuisinier. On a deviné que vous faisiez assez bien les petits champignons du Jura à la poêle. Merci beaucoup, Luc Jacquet, de nous avoir porté, de nous avoir ébloui ce matin. Cette émission a été préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap, réalisée excellemment par Maria Pasquet, avec à la technique Laurent Baudouin et à la programmation musicale l'excellente Valentine Chedebois. Quant à moi, je vous retrouve heureusement demain matin. Ça va être long, mais d'ici là, on va s'occuper, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter. À demain matin.